dele.
Bienvenue sur Radio Orient. Voici votre journal de midi. À la une, ces nouvelles frappes américaines contre l'Iran. Deuxième salve en deux jours, suivie de la réponse de Téhéran avec des attaques contre des bases militaires dans les pays du Moyen-Orient. La Tunisie fait face à la sécheresse. Les agriculteurs doivent de plus en plus s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique qui touche le pays. À suivre dans ce journal. La verbalisation du voile dans l'espace public proposée par le Rassemblement national fait débat. La secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier appelle même à la désobéissance civile en cas de victoire du RN. L'escalade franchit un nouveau cap entre l'Iran et les États-Unis après une deuxième journée consécutive de frappes américaines sur son territoire. Téhéran a lancé une riposte d'envergure contre des positions américaines dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Missiles, drones, bases militaires visées, les attaques se multiplient tandis que la tension monte également dans le détroit stratégique. D'Ormuz, on fait le point avec vous, Nadia Bencher.
Et oui, Wallis, la riposte iranienne s'étend désormais à une grande partie de la région. Jordanie, Koweït, Bahreïn, Irak, mais aussi Émirats Arabes Unis. Téhéran affirme avoir frappé des bases et des positions américaines dans plusieurs pays. À Erbil, dans le Kurdistan irakien, les gardiens de la révolution disent avoir visé des installations américaines avec des missiles et des drones. Les forces antiterroristes kurdes affirment, elles, avoir abattu 10 drones chargés d'explosifs au Koweït. Un drone iranien a provoqué un incendie dans un complexe résidentiel de la capitale sans faire de victimes. En Jordanie, l'armée annonce avoir détruit 10 missiles iraniens. 3 autres se sont écrasés loin des zones habitées. Cette offensive répond, Wallis, à une nouvelle série de frappes américaines contre l'Iran. Le CENTCOM affirme avoir ciblé notamment des sites de défense aérienne, des radars et des installations maritimes des gardiens de la Révolution. Selon les médias d'État iraniens, au moins 11 personnes ont été tuées, dont 4 lors d'un mariage dans la province d'Hormozgan. 4 membres des gardiens de la Révolution et 3 membres du Basij ont également été tués, dont d'autres frappes. Et l'escalade pourrait se poursuivre. Téhéran promet des ripostes plus larges et plus destructrices. Si Washington continue ses attaques, Donald Trump menace lui de frapper l'Iran plus durement et plus fort.
Et cette confrontation se joue aussi sur un autre front particulièrement sensible, le détroit d'Ormuz. Cette voie maritime stratégique verrouillée par l'Iran depuis le début de la guerre est de nouveau le théâtre d'incidents impliquant plusieurs pétroliers avec désormais des victimes et des pour les cours du pétrole.
En effet, 2 pétroliers sont en feu ce mercredi dans le détroit d'Ormuz. Selon les gardiens de la Révolution, ils ont heurté des mines après avoir emprunté une route située en dehors de l'itinéraire désigné par les forces iraniennes. Un nouvel incident qui intervient 2 jours après l'attaque contre le Sidr, un pétrolier de la compagnie publique saoudienne Bahri. 2 marins philippins ont été tués. Le navire avait été touché par des projectiles d'origine inconnue alors qu'il s'est du détroit. Un autre tanker avait également été pris pour cible. Ormuz, vous l'avez dit, est devenu l'un des points névralgiques du conflit. L'Iran veut désormais imposer des frais de service pour emprunter cette voie maritime par laquelle transitait avant la guerre 1/5 des hydrocarbures mondiaux. Washington cible et a imposé un blocus aux ports iraniens. Cette nouvelle poussée de tension se répercute déjà sur les marchés. Le Brent est repassé au-dessus des $90 pour la première fois depuis fin juillet.
Merci beaucoup Nadia Bencher pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, le président chinois poursuit sa visite d'État au Caire, en Égypte. Il s'agit de la première en 10 ans pour Xi Jinping, dans un contexte marqué par le regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran. Xi Jinping poursuit son offensive diplomatique après son passage au sommet de l'OCS au Kirghizistan. En Égypte, un accident de bus dans la péninsule du Sinaï a fait 16 morts et 28 blessés. C'est le ministère de la Santé qui l'a indiqué aujourd'hui. Plusieurs ambulances ont été dépêchées sur place pour évacuer les blessés. Les causes de l'accident n'ont pas été encore dévoilé. En Turquie, un cargo a coulé avec un équipage de 10 personnes à son bord a pris une collision dans la nuit avec un autre navire en mer de Marmara au sud-ouest d'Istanbul, annonce de la direction turque des affaires maritimes. Le président ukrainien prévient l'aviation civile et les partenaires de Kiev que les drones ukrainiens rendraient dangereux d'emprunter l'espace aérien russe. Kiev a intensifié ces derniers mois ses frappes en Russie et sur ses territoires occupés par Moscou, visant particulièrement des entrepôts logistiques et des sites pétroliers et portuaires. Et répondant à cet avertissement, Vladimir Poutine estime qu'il s'agit d'une déclaration de terrorisme d'État et affirme qu'on ne négocie pas avec les terroristes. La tension monte d'un cran entre l'Union européenne et la Russie. L'Europe évoque un acte de terrorisme soutenu par un État. En cause, cet incident impliquant un drone chargé d'explosifs, c'était début août à l'aéroport allemand de Leipzig. Côté français, ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, indique que la France a convoqué le chargé d'affaires russe à Paris pour protester très vivement contre cette attaque hybride, selon ses termes. La présidentielle, c'est dans 8 mois, justement, en France. Mais avant ça, on va évidemment évoquer la Tunisie qui n'est pas seulement en manque de pluie, puisque effectivement la Tunisie s'inquiète, mais une chaleur de plus en plus intense qui accentue la pression sur des ressources en eau déjà fragiles face à cette nouvelle donne climatique. Les agriculteurs sont contraints de repenser leurs pratiques et sont à la recherche de modèles plus économes et plus résilients. Parmi les pistes avancées, l'agroécologie et la régénération des sols. Les explications de Kamel Gargaoui, professeur et de l'enseignement supérieur agricole à l'Institut de l'Olivier. On l'écoute.
Bon, la sécheresse, nous, on est habitués, surtout au niveau de la période estivale, qui est généralement très sèche tout autour du bassin méditerranéen et particulièrement dans la rive sud. On est habitués à ça. Mais ce qui est difficile, c'est que en plus de la sécheresse, il y a une augmentation très très importante de la température. On a plus d'évapotranspiration, plus de besoins et avec des ressources hydriques qui sont déjà très fragilisées, avec une exploitation assez importante des nappes, qui peut être une surexploitation, qui peut conduire à un épuisement progressif.
Kamel Gargouri, certains agriculteurs se tournent aujourd'hui vers l'agroécologie dans l'espoir de développer une agriculture plus durable. Est-ce que cette approche constitue une solution viable pour l'agriculture tunisienne et dans quelle mesure ces pratiques se développent-elles réellement auprès des agriculteurs?
Les agriculteurs se tournent vers des systèmes plus diversifiés où on a plus d'apports de matières organiques, donc on régénère les sols et il y a maintenant le terme d'agriculture régénérative et les agriculteurs se tournent un peu vers ça et aussi en diversifiant leurs produits en ayant plus qu'un produit, donc moins de fragilité face au marché. Les agriculteurs sont à la recherche de solutions et l'une des solutions qui est l'agroécologie, qui est une bonne solution, mais qui est une solution, disons, de moyen à long terme, parce que quand on veut régénérer la fertilité du sol, améliorer sa capacité de rétention d'eau et augmenter le réservoir en eau, donc pour justement valoriser au maximum l'eau qui arrive par des épisodes violents de pluviométrie. Et là, ça prendra un peu de temps. On est sur des solutions qui donneront des résultats à moyen et long terme, mais il y a une conscience qui se développe au niveau des agriculteurs vers un besoin de changement, et l'une des voies de changement, c'est cette agroécologie.
C'était Kamel Gargouri, professeur de l'enseignement supérieur agricole à l'Institut de l'Olivier. Il a invité d'Inès Gilles dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. La présidentielle, c'est dans 8 mois. En France, Marc Ferracci, ex-ministre de l'Industrie et de l'Énergie et député des Français établis hors de France, estime que la question de l'énergie doit être au cœur de la campagne. Il met aussi en lumière les enjeux liés au détroit d'Ormuz. On l'écoute.
Sera au cœur de la campagne pour au moins 2 raisons. D'abord parce que c'est une question qui touche au quotidien des Français. La question des prix de l'électricité, la question du prix du gaz, la question du prix de l'essence. Et on le voit aujourd'hui avec le conflit qui a lieu au niveau du détroit d'Ormuz, qui fait monter les prix du baril et qui donc fait monter les prix à la pompe. Et c'est aussi une question pour le devenir de la nation. Et ici, Il y a un cap qui a été posé par Emmanuel Macron. Il y a une stratégie qui consiste à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est un débat très important, c'est un débat qu'il faut que nous ayons, parce que aujourd'hui, toutes les forces politiques n'ont pas forcément les mêmes idées sur la stratégie à avoir pour l'énergie dans notre pays. Moi, je pense que ce cap est le bon, parce qu'on le voit bien, être dépendant du gaz et du pétrole importé, c'est d'abord très coûteux. Ça nous coûte 60, 70 milliards d'euros par an pour notre balance commerciale. Et puis, c'est surtout une forme de vulnérabilité qui s'impose dès qu'il y a une crise à l'autre bout du monde. C'était le cas en 2022 quand Poutine a fermé le robinet du gaz. C'est le cas aujourd'hui avec la crise au Moyen-Orient. Donc, on a besoin de sortir de cette vulnérabilité, on a besoin de sortir de cette dépendance. Et pour cela, on a un cap qui consiste à miser sur l'électrification.
Cette question, elle intéresse particulièrement les citoyens, cela touche à leur pouvoir d'achat. Vous l'avez dit, en jeu, la géopolitique, également la politique intérieure, la politique sociale du gouvernement français, mais aussi des différents gouvernements européens. L'Europe est-elle suffisamment unie aujourd'hui sur cette question ?
Je pense que l'Europe a fait des choix qui, collectivement, sont courageux. Elle a fait le choix de sortir de la dépendance au gaz russe au moment de la crise qui a commencé avec l'agression russe en Ukraine. Elle a aujourd'hui un cap qui assume de traiter le nucléaire comme une énergie pilotable et une énergie très importante. Ça n'a pas toujours été le cas en Europe. Donc l'Europe a bougé sur la question énergétique et je trouve qu'elle a bougé plutôt dans le bon sens. Maintenant, chaque pays a, vis-à-vis de la question du pouvoir d'achat sur l'énergie, des réponses qui peuvent être différentes. En France, nous avons fait le choix, face à la crise qui a lieu dans le détroit d'Ormuz, d'aides ciblées, c'est-à-dire d'aides qui vont vers les ménages qui en ont le plus besoin, vers les gros rouleurs, vers les ménages modestes, parce que le saupoudrage des aides, et en particulier la baisse de la fiscalité indifférenciée sur l'essence et sur l'énergie en général, serait extrêmement coûteuse. On parle de 10 à 15 milliards d'euros, et serait surtout très inefficace, parce que aider ceux qui n'en ont pas besoin, aujourd'hui, c'est quelque chose dont nous n'avons pas les moyens. Et donc, je pense que face à cette crise, les réponses de court terme qu'a choisi la France sont les bonnes. Et au niveau européen, on a besoin de garder ce cap de la décarbonation, c'est-à-dire de la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Je pense que nous allons le garder.
Marc Ferracci, ex-ministre de l'Industrie et de l'Énergie et député des Français établis hors de France, au micro de François-Xavier de Calonne. Je vous le disais dans les titres, la désobéissance civile en cas d'arrivée du Rassemblement National au pouvoir en 2027. Les mots de Marine Tondelier ce matin, elle assume ses propos et qui ont suscité la polémique. Invitée de France Info, la secrétaire nationale des écologistes a défendu cette position, estimant que certaines mesures promises par le RN pourraient justifier le refus de les appliquer. Elle prend notamment l'exemple d'une éventuelle verbalisation des femmes portant le voile dans l'espace public.
Quand, dans des moments de l'histoire française, il y a eu des consignes politiques qui ont été passées, qui étaient extrêmement choquantes, qui étaient illégitimes. Heureusement qu'il y a des fonctionnaires qui ont dit « moi, je la mets pas en œuvre ». Un parti qui expliquait hier qu'il allait verbaliser les femmes qui porteraient le voile sur l'espace public. Mais excusez-moi, la laïcité, c'est une loi de 1905, c'est pas une police du vêtement, la laïcité. C'est une neutralité du service public par rapport à la religion.
Qu'est-ce que vous ferez concrètement ?
J'espère bien que si cette mesure fait l'objet de consignes politiques précises parce que le Rassemblement National sera arrivé au pouvoir, j'espère bien qu'il y ait des policiers qui diront « mais je ne verbalise pas une femme parce qu'elle porte le voile sur l'espace public
». Donc c'est ça concrètement quand vous parlez de désobéissance civile.
Une jurisprudence constante sur le sujet, ils l'ont rappelé des dizaines de fois. Enfin, ça suffit en fait. Ils ont un programme qui n'est pas républicain, ils ont un programme qui met en danger notre démocratie et qui met en danger des personnes.
Mais donc,
très précises.
Concrètement, ça veut dire quoi désobéir?
Ça dépend qui vous êtes. Mais les politiques, ils ont des manières politiques de désobéir, les fonctionnaires des manières fonctionnarielles. Et j'espère bien qu'un maximum le fera.
C'était Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes et candidate à l'élection présidentielle. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 13h.